Alors, bon réveil en espérant que vous ne soyez pas trop fatigué. Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est la crainte des autorités en cette rentrée, voir les établissements scolaires fermer à cause de l'épidémie de Covid-19. Leur liste s'allonge, mais faute de protocole commun face aux cas avérés ou suspects, des professeurs sont écartés, des classes ou des écoles sont fermées, mais c'est au cas par cas.
Et les parents se débrouillent comme ils peuvent, vous l'entendrez dès le début de ce journal.
Dépasser la crise sanitaire et économique, c'est l'objectif du plan de relance à 100 milliards d'euros présenté hier en Conseil des ministres. 40% de ce plan doit être financé par des fonds européens, mais qui paiera vraiment les citoyens, peut-être par des taxes et des impôts? Réponse dans ce journal.
À la une encore, la crise migratoire. Le chef de l'ONU réclame la fermeture des centres de détention de migrants en Libye, où leurs droits sont violés.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mis en cause par ailleurs dans la mort d'un garçon de 3 ans en Tunisie. Il est tombé d'un toit d'un centre de réfugiés géré par le HCR.
Et puis un anniversaire aujourd'hui, Catherine.
Les 150 ans du rétablissement de la République, commémorés ce matin par Emmanuel Macron au Panthéon.
Dans une dizaine de minutes, la question du jour. François Bayrou, au commissaire au plan, quelles règles régissent la probité en politique? Je poserai la question à Emmanuel Aubin, il est professeur de droit public à l'université de Tours.
7157 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures en France. Et pour la troisième journée consécutive, Santé publique France note une hausse du nombre de patients en réanimation. 55 personnes admises en 24 heures. 23 départements sont désormais considérés en situation de vulnérabilité élevée. 37 en vulnérabilité modérée. Et les écoles commencent à fermer sur le territoire moins d'une semaine après la rentrée à cause de l'épidémie. Exemple près de Lyon, à Saint-Didier, au Mont-d'Or. Le reportage de Mathilde Imberti.
Le plus jeune fils de Franck vient d'entrer en CE2 à l'école Froment de Saint-François. Une rentrée brève.
J'ai un enfant de 7 ans qui est rentré lundi et qui a terminé mardi.
Car entre-temps, une enseignante a été testée positive au coronavirus. Et pour une institutrice touchée, 10 classes fermes. L'ensemble de l'équipe est placée à l'isolement. 300 enfants retrouvent l'école à la maison et leurs parents jonglent.
Moi, j'ai la chance d'avoir mes parents donc qui peuvent le garder. Autrement, je pense qu'il serait venu de temps en temps avec moi au bureau, de temps en temps avec sa maman. On aurait trouvé des solutions.
La majorité des familles comprend la décision de fermeture. L'appel à manifester lancé par une poignée de parents mécontents a été peu suivi. Devant l'autre école de la commune, l'école publique, on angoisse par avance. Car à Saint-Didier, au Mont-d'Or, tout le monde se croise, raconte Coralie, mère de famille, 2 enfants.
C'est une toute petite commune et il y a juste à côté un petit parc où les enfants jouent ensemble, que ce soit l'école privée et l'école publique. On a très très peur que celle-ci ferme aussi, du coup. Ouais, c'est ultra stressant.
Pour soulager les parents, une garderie fonctionne dès ce matin dans les locaux de l'école Froment de Saint-François, des locaux qui ont été entièrement désinfectés. S'il n'y a plus de traces du virus, eh bien l'établissement rouvrira le 14 septembre.
Et près d'une quinzaine d'écoles sont concernées à l'heure où je vous parle par des cas suspects ou avérés de Covid-19. La gestion se fait au cas par cas, fermeture d'école, fermeture de classe ou bien simple éviction de la personne concernée. Alors que les agences régionales de santé mènent les enquêtes sanitaires pour les décisions ensuite, la règle, eh bien, c'est justement qu'il n'y a pas de règle, Sonia Princé.
Chaque décision est prise en fonction du degré d'interaction entre les élèves, en fonction aussi de la configuration des locaux. En Haute-Loire, c'est une école entière qui est fermée jusqu'à mercredi prochain, au moins après un cas positif, le temps de tester tous les enfants qui se sont côtoyés dans les 4 classes de cette petite maternelle. À Paris, dans une école du 16e arrondissement, ce sont simplement 2 classes qui sont fermées. Les élèves auront cours à distance pendant 15 jours. Et à Thiers, dans le Val-de-Marne, un lycéen a bien été testé positif, mais il n'aurait pas eu de contact prolongé avec ses camarades et tout le monde était masqué. Donc pour l'instant, les cours continuent pour les autres élèves. Dans plusieurs écoles, en Haute-Vienne et dans l'Hérault, des cas de Covid sont apparus chez les enseignants. Tous ont été remplacés. Les enfants en classe normalement. D'une manière générale, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait le moins d'élèves absents et le moins d'heures de cours perdues, surtout à la rentrée, surtout après le confinement. Les professeurs le savent, les premières semaines sont déterminantes pour donner un rythme de travail et de bonnes habitudes dès le départ, même s'ils s'interrogent parfois sur ces décisions très différentes d'un établissement à l'autre.
L'éducation encore, mais dans le supérieur cette fois, la ministre Frédérique Vidal annonce dans le Figaro ce matin que 30 000 places supplémentaires seront créées à l'université entre 2020 et 2022, notamment dans la santé et le paramédical, le numérique et le développement durable des filières aujourd'hui en tension. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance présenté hier par Jean Castex, 5 milliards 700 millions d'euros iront au ministère de l'enseignement supérieur, indique encore le Figaro. 40% du plan de relance de la France seront financés par les fonds européens, selon l'exécutif, soit 40 milliards. Il faut encore les débloquer. La France présentera son plan en octobre à ses partenaires européens. C'est ce qu'a indiqué hier le secrétaire d'État Clément Beaune, les précisions de Marie Viennot.
Il est encore trop tôt pour dire combien la France recevra exactement du plan de relance européen. La Commission européenne n'a d'ailleurs pour le moment publié aucun chiffre par pays. Cela pour une raison très simple, une partie des fonds alloués à chaque État dépend de la chute de son PIB en 2020 et 2021. Chute non constatée encore, forcément, mais qui peut cependant être estimée. 40 milliards, c'est donc un ordre de grandeur réaliste, mais non validé par la Commission, ce montant dépendant aussi de données connues, comme le taux de chômage avant le Covid et la taille de l'économie. Qui paiera ces 40 milliards au final ? Pas nous, a promis Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes, lors de la conférence de presse.
Il n'y a pas, ni pour les citoyens français, ni pour les entreprises françaises, un remboursement, un impôt à payer immédiatement pour ce plan de relance. Et d'ailleurs, pas d'impôt, ni aujourd'hui, ni demain.
L'Union européenne n'a en effet pour le moment pas le pouvoir de lever des impôts. Son plan de relance prévoit que les montants empruntés ne seront remboursés qu'à partir de 2027, l'idée étant de trouver de nouvelles ressources propres d'ici là. Deux taxes sont dans les tuyaux, une sur le numérique, une sur les entreprises qui exportent vers l'UE sans respecter les mêmes normes environnementales. La Commission a jusqu'à fin 2021 pour faire des propositions. Les pays européens auront donc ensuite environ 5 ans pour se mettre d'accord. Est-ce assez long ? Tout dépendra de leur volonté commune, car sur la fiscalité, l'unanimité est toujours requise. Or, pour mémoire, la taxe sur les transactions financières est en discussion depuis 11 ans.
Marie Viennot, face à la récession et à la crainte pour leur emploi, les Français ont déposé de plus en plus d'argent à la banque entre les mois de mars et de juillet dernier. 85 milliards d'euros d'épargne. C'est un record absolu selon les derniers chiffres de la Banque de France auquel le Parisien aujourd'hui en France a eu accès.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Le chef de l'ONU face aux violations des droits de l'homme en Libye réclame la fermeture des centres de détention de migrants.
Rien ne peut justifier les conditions horribles de détention des réfugiés et des migrants, souligne Antonio Guterres. Il précise que les enfants ne devraient jamais être détenus, notamment lorsqu'ils sont sans accompagnateur ou séparés de leurs parents. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, mis en cause par ailleurs dans la mort d'un garçon de 3 ans en Tunisie. Il est tombé d'un toit d'un centre de réfugiés géré par le HCR. Et derrière ce décès, il y a toute la politique migratoire européenne en Afrique du Nord. L'UE finance la protection des frontières tunisiennes, nettement moins l'aide humanitaire. Si le décès de ce garçon est survenu la semaine dernière, il vous a fallu plusieurs jours, Maureen Mercier, pour obtenir une réponse du HCR. Et vous avez également pu joindre, Maureen, des femmes qui ont fui la Libye, qui se retrouvent en Tunisie, au centre situé à Medellin, dans le sud du pays. Ces migrants et migrantes ont souhaité garder l'anonymat.
Les migrants sont d'autant plus choqués que pour eux, ce drame était inéluctable.
Les fenêtres n'ont pas de garde-fous. Le toit n'est pas protégé. Même un adulte peut tomber de ces fenêtres. On leur avait dit, mais personne ne nous a écoutés.
Dans un premier temps, le HCR refuse de répondre. Il gère le centre avec une ONG tunisienne, le Conseil pour les réfugiés. La réponse de son président Mustapha Djemali est embarrassée, mais elle a le mérite d'exister.
Ma première réaction, c'est de loger un réfugié. Sa sécurité vient après, ce petit enfant, c'est triste. Au moins, ça nous a ouvert les yeux. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire ce qu'il faut faire.
Pour les migrants, c'est la négligence qui a conduit à la mort du petit garçon. Pour Hanan Hamdan, responsable du bureau du HCR à Tunis qui finit par répondre, l'explication, c'est le manque de fonds.
Les demandeurs d'asile sont de plus en plus nombreux à arriver en Tunisie. Il nous faut plus de financement de la part de nos partenaires.
Plus de financement de la part de l'Europe, précisément. L'Europe qui finance la sécurisation des frontières maritimes tunisiennes pour retenir les migrants en Afrique du Nord. Elle n'accorde par contre que très peu de fonds aux organisations humanitaires chargées de les soutenir, alors qu'ils sont de plus en plus nombreux à se retrouver coincés en Tunisie.
Maureen Mercier en Tunisie pour France Culture. Aux États-Unis, 7 policiers de Rochester, dans le nord-ouest de l'État de New York, ont été suspendus hier après l'arrestation et la mort par asphyxie d'un homme noir de 41 ans. Après la publication d'une vidéo montrant sa mort survenue en mars dernier, la maire de la ville de Rochester parle d'un acte raciste. Lui veut incarner le changement, plus d'égalité sociale et raciale. 48 heures après Donald Trump, Joe Biden s'est rendu dans l'État du Wisconsin à Kenosha pour rencontrer la famille de Jacob Blake, grièvement blessé de 7 balles dans le dos par un policier devant ses enfants. Le reportage de notre envoyé spécial à Kenosha, Omar Waman.
Joe Biden s'est rendu auprès de la famille de Jacob Blake à peine arrivé dans l'état du Wisconsin. Justine, l'oncle et porte-parole, raconte que son frère, le papa de la victime, s'est entretenu avec l'ex-vice-président, qu'ils ont évoqué, entre autres, une réforme de la police. La conversation fut excellente. Deuxième étape du candidat démocrate, une église à deux pas de la maison de la famille Blake, une arrivée en trombe sous les slogans des activistes du mouvement Black Lives Matter. Des militants venus parfois de loin. Comme Cathy qui demande à ce qu'on arrête de les tuer. Dit avoir conduit pendant 6 heures avant d'arriver parce que toutes les vies comptent. À l'intérieur de l'église, devant un parterre trié sur le volet, Joe Biden veut redonner espoir. Le candidat démocrate croit honnêtement que s'offre une énorme opportunité de faire de très nombreuses choses positives. Alors qu'à l'extérieur, une foule très jeune crie sa soif de justice et il faudra plus que des mots pour gagner sa confiance.
Omar Waman, envoyé spécial de France Culture à Kenosha, dans le Wisconsin. Donald Trump a de nouveau appelé hier les électeurs à se rendre dans les bureaux de vote pour l'élection présidentielle américaine de novembre prochain, même s'ils ont au préalable déjà envoyé leur bulletin par courrier. Tollé de nouveau, puisque Donald Trump semble inciter à un potentiel acte de fraude électorale. La Maison-Blanche et Donald Trump qui démentent catégoriquement par ailleurs que le président est qualifié de loser et de crétin. C'est un des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale, comme l'affirme le magazine The Atlantic. Une polémique qui pourrait coûter cher au camp républicain à deux mois de la présidentielle. Camille Magnard y revient dans la revue de presse internationale après le journal de 7h30. Le temps de ce vendredi 4 septembre, encore très nuageux de la Bretagne au nord de la Seine, mais ensoleillé et plus chaud dans le reste de l'Hexagone. Au meilleur de la journée, il fera entre 27 et 31 degrés en général, jusqu'à 35 dans les plaines du sud-ouest, Guillaume Hernet.